Les éditions de l'Avenir présentent Château de sable, un texte de Mario Fecteau, publié à l'origine dans Tantôt numéro 43, en novembre 1996. Lu par Ezoy et Christian Martin, avec la participation de K00 et Sylvie M. Tout le monde a déjà vu le soleil, ou, du moins, en a entendu parler. Jules Verne. Caroline regarda son château. Comme d'habitude, elle l'avait construit sur l'estran. La marée montait. La mer reprenait peu à peu possession du terrain qu'elle avait laissé à découvert quelques heures plus tôt. Bientôt, les vagues viendraient lécher la base du château. Les tours que Caroline avait érigées avec patience et minutie s'effondreraient une à une, et la fragile construction redeviendrait une masse de sable informe. Bientôt, la mer aurait effacé toute trace de la présence de Caroline sur la plage, comme la maladie avait effacé sa vie. Une fine pluie, souvent rien de plus qu'une bruine légère, était tombée pendant une bonne partie de l'avant-midi. Elle avait cessé juste après le repas, mais le ciel avait gardé un aspect menaçant. Caroline avait enfilé son ciré, puis était sortie pour construire un château. Depuis, les nuages avaient commencé à se déchirer, laissant paraître un peu de ciel bleu. Caroline savait ce que cela signifiait. Demain, sous un soleil ardent, la plage se couvrirait de vacanciers. Des cris de joie et des rires retentiraient partout. Des dizaines de gens viendraient parfaire leur bronzage. Ses amis d'autrefois seraient peut-être du nombre. Caroline ne les avait plus revus depuis sa crise. De toute façon, elle ne voulait plus lui parler. Elle dirait rire et s'amuser, sans même se douter de la présence de leur ancienne copine, habitant à moins de 100 mètres du rivage. Caroline n'irait pas les rejoindre. Elle resterait chez elle, sans même ouvrir un rideau, sans même tenter de les apercevoir par sa fenêtre. Même si les fenêtres de son appartement donnaient toutes sur le nord, un rayon de soleil pouvait accrocher une toiture ou un véhicule et entrer dans son logement. Elle ne voulait courir aucun risque.
Je n'y crois pas beaucoup, docteur, mais je veux bien essayer. Je ne crois pas que mettre mes souvenirs par écrit pourrait m'aider. Vous affirmez que je ne parviens pas à m'en sortir parce que je ne le souhaite pas. Vous affirmez, croyant que votre diplôme vous donne toutes les réponses, que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Détrompez-vous. Je sais parfaitement pourquoi je n'ai plus d'amis. J'étais encore sous le choc de la nouvelle quand, le lendemain, mon amie Viviane m'a téléphoné. Elle m'a proposé un après-midi sur la plage avec pique-nique et feu de camp en soirée. J'ai accepté, dans l'espoir de me changer les idées. Ce n'est qu'une fois hors de la maison que j'ai réalisé mon erreur. J'étais tout en sueur, bien que le temps fût sec. Je ne me suis sentie mieux qu'une fois sous le parasol, où le soleil ne pouvait m'atteindre directement.
« Tiens, voilà Caro et la vieille !»
a lancé Sandy. Dans le groupe, nous avions surnommé Viviane « la vieille », même si elle et moi avions pratiquement le même âge. En réalité, Viviane possédait une terrible tare aux yeux de la bande. Elle était née en décembre 1999, ce qui faisait d'elle la seule d'entre nous dont l'année de naissance commençait par 19. En fait, je n'ai que 3 mois de moins qu'elle. Je tentais de me raisonner en me répétant que ma peur était ridicule. Il était de toute façon trop tard pour moi. Et un après-midi de plus au soleil ne changerait rien. Il n'empêche que je me suis mise à ressentir sa chaleur comme une menace. Viviane fut la première à remarquer mon malaise.
« Tu sembles nerveuse, Caro. Ça n'a pas l'air d'aller très fort, on dirait. »«
C'est vrai ?»
a repris Sandy.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
Sincèrement, je pense que je serais parvenue à contenir l'angoisse que je sentais croître en moi si j'avais pu rester à l'ombre du parasol. Sauf que Sandy m'a tirée par le bras pour m'entraîner vers la mer. En plein soleil. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé alors. Je me suis réveillée à l'hôpital. Viviane est venue me voir une fois et n'a pas voulu me croire quand je lui ai dit que je ne me souvenais de rien. Finalement, elle m'a tout raconté en détail, d'une voix pleine d'amertume. Apparemment, j'ai complètement perdu la tête et me suis mise à hurler et à me débattre. Il a fallu l'intervention de 3 garçons du groupe pour me neutraliser. Dans mon délire, j'avais eu le temps de casser le nez du petit ami de Viviane et un bras à Sandy. Cette dernière s'est alors jurée de ne jamais plus m'adresser la parole. À ses yeux, j'étais une démente. Le groupe l'a suivie.
Une première vaguelette toucha timidement la base de son château, sans effet. Presque aussitôt, une deuxième frappa avec plus de force, toujours sans résultat, puis une troisième, plus puissante encore, arracha finalement une couche de sable à la surface d'un mur d'enceinte. Caroline regarda la plaque de sable se défaire et sourit. Avec une mer aussi calme, le château mourrait lentement. Caroline aimait regarder ses châteaux s'effondrer dans la mer. Elle les construisait avec amour, s'attardant longuement sur une foule de petits détails. Elle regardait ensuite l'Atlantique lui reprendre le sable qu'elle lui avait emprunté. Caroline avait un peu l'impression que la mer lui parlait et, d'une certaine manière, dans son langage particulier, c'était le cas. Il s'était établi une sorte de respect mutuel entre l'océan et elle. C'était la fragilité de ses constructions qui lui plaisait. Caroline trouvait rassurant l'existence de quelque chose de plus fragile que la santé humaine, que la vie. Ses châteaux naissaient entre ses mains, puis mouraient en quelques heures. Elle voyait en eux les éphémères du règne minéral. Comme ces insectes, ils ne vivaient que quelques heures. Parfois, une vague un peu plus grosse frappait le château, apparemment sans effet. Puis, une simple ride suivait, heurtant à son tour l'édifice, et un mur entier ou une tour s'écroulait. Caroline était fascinée. Étrange qu'un petit choc produise un tel résultat, alors qu'un impact plus puissant semblait sans conséquence. C'était un peu comme pour la vie, au fond. Le mur d'enceinte s'effondra, suivi d'une première tour.
J'ai vu les châteaux pour la première fois pendant l'été de mes 6 ans. Mes parents avaient préféré m'emmener en vacances plutôt que de me confier à une gardienne. Ils ne le firent plus par la suite. Cela m'a évité de finir comme eux 3 ans plus tard dans les eaux d'un lac. Peut-être était-ce le fol espoir de retrouver ma sérénité d'enfant qui explique mon désir récurrent de retourner aux îles. J'avais 16 ans lorsque j'ai obtenu un emploi d'été aux îles de la Madeleine. Malheureusement, je n'ai pu assister au concours de château de sable cet été-là. J'y suis retournée en touriste pour célébrer mes 18 ans et mon indépendance toute neuve. Plutôt que l'avion, comme 2 ans plus tôt, j'avais choisi le même trajet que mes parents, si bien qu'il m'a fallu 2 jours pour m'y rendre. J'ai ainsi pu mettre des noms sur les paysages qui peuplaient mes souvenirs. Je me rappelais peu mon premier voyage. Il y avait un très long pont et aussi un bateau. Pendant la traversée, j'avais sans doute dormi ou joué avec d'autres enfants. Je ne saurais le dire. Seul le souvenir des châteaux était resté bien vivant dans mon esprit. L'idée que j'allais enfin les revoir me remplissait d'allégresse, mais aussi d'une légère crainte. Mes souvenirs d'enfant avaient peut-être embelli les choses. Peut-être trouverais-je les châteaux bien ordinaires ? J'espérais seulement ne pas connaître une déception trop vive. Pour mes 18 ans, au contraire, j'ai savouré chaque instant du voyage. On ne voit pratiquement pas la mer avant le pont de la Confédération reliant l'île du Prince-Édouard et le continent. Puis c'est le traversier, et pendant des heures, le trajet naval n'offre que la mer en pâture aux regards affamés. Enfin, c'est l'arrivée aux îles qui présente à elle seule un cachet particulier. Lorsque les principales îles apparaissent, on a d'abord l'impression que la première vague un peu forte va les submerger. Enfin, le bateau se faufile entre l'île d'entrée et Havre Aubert. Les îles couvrent alors l'horizon, brisant leur illusion de fragilité. Au concours sur la plage de Havre Aubert, je me suis rendu compte que mes souvenirs n'avaient pas été bonifiés par les ans. C'était vraiment extraordinaire. On était loin, vraiment loin, du sempiternel pâté rond formé avec un seau de plastique. J'y suis retournée les 3 années suivantes, sans que mon intérêt pour les châteaux ne retombe. Je me suis même mise à en construire moi-même. Vous avez peut-être raison, docteur. Du moins en partie. Décrire tout cela me fait du bien. Beaucoup de bien. Même si je n'apprends rien que je ne savais déjà. Et en ce qui concerne le soleil, il est malgré tout trop tard.
Les tours tombaient les unes après les autres. Il ne restait plus grand-chose du château. La moitié de l'édifice était maintenant écroulée et le reste ne tarderait pas à suivre. D'ailleurs, l'ensemble penchait maintenant vers le large, sapé à sa base par la montée inexorable de l'eau. Par son inclinaison et sa décoration, le donjon donnait l'impression d'une tour de Pise miniature. Une tache lumineuse apparut sur la plage, non loin de Caroline. Il y avait là un petit ruisseau qui s'était creusé une vallée dans la dune pour rejoindre la mer. C'était le soleil, Caroline le savait, qui venait de percer les nuages. Elle se sentit nerveuse un moment, puis se détendit. Bien abritée par la dune, elle était sûre de rester à l'ombre. Maintenant, Caroline surveillait son château, sans se soucier davantage de la zone éclairée qui s'étirait de plus en plus, s'éloignant de sa position. La lumière du soleil fit briller le sable humide. Tout au plus, remarqua-t-elle que la zone éclairée prenait une teinte rougeâtre, tandis que le soleil descendait sur l'horizon. Elle ne s'inquiétait pas. Le soleil serait complètement couché avant que la mer n'ait eu raison de son château. Munie de sa lampe de poche, elle pourrait rentrer sans craindre la nuit. D'ailleurs, en cette période de l'année, les crépuscules se prolongeaient un bon moment. Elle reporta son attention sur le château. La dernière tour s'effondra.
Lorsque je suis sortie de derrière le paravent, j'ai aussitôt remarqué l'air soucieux de mon médecin, ce qui m'a fait supposer qu'il n'avait pas de bonnes nouvelles à m'annoncer. Toutefois, je ne soupçonnais absolument pas l'ampleur de la nouvelle. Mon médecin m'a décroché un sourire professionnel, sans chaleur, avant de m'inviter à m'asseoir. Nerveuse, j'ai obéi. Il m'a expliqué qu'il avait fait chaque test à 2 reprises, afin de s'assurer de l'exactitude de son diagnostic. Il m'a interrogé de nouveau sur le nombre d'heures que je passais au soleil, m'a questionné encore une fois sur mes habitudes alimentaires et sur les tenues vestimentaires que je portais lorsque je me trouvais à l'extérieur. Il m'a alors annoncé la terrible nouvelle. Cancer de la peau. J'ai commencé par rire nerveusement, refusant d'assimiler la nouvelle. Puis je lui ai affirmé qu'il avait commis une grossière erreur, que je n'avais pas pris tant de soleil que cela, du moins, certainement pas assez pour attraper un cancer de la peau. Enfin, j'ai fondu en larmes. Je savais que le cancer de la peau est responsable de 30% de tous les décès de ce début de siècle. Le médecin m'a laissé pleurer tout mon soûl. Il avait sûrement l'habitude de ce genre de réaction. Il m'a ensuite parlé avec douceur, me révélant l'existence d'un nouveau traitement expérimental qui avait donné quelques résultats en laboratoire. Il ne me cacha pas les risques d'effets secondaires. Bien qu'encore abasourdi par le choc, je l'ai écouté attentivement. Très attentivement. Il m'a demandé si je voulais réfléchir à la possibilité d'essayer le traitement. Presque en riant, je lui ai répondu que je n'avais pas vraiment le choix si je voulais une chance de vivre. J'ignorais si je parviendrais à m'en sortir, mais je le voulais. À partir de cet instant, j'ai su que, pour moi, le soleil n'aurait jamais plus d'attrait. jusqu'à la fin de mes jours, j'allais vivre dans l'ombre.
La zone rougeâtre s'étirait de plus en plus sur la grève, mais pâlissait. La moitié de l'astre du jour devait maintenant se trouver sous l'horizon. Avec le temps, Caroline avait appris à deviner la position du soleil uniquement par l'intensité de l'éclairage indirect. Elle connaissait également avec précision l'heure du lever et du coucher de son ennemi. Caroline habitait seule, dans un appartement qu'elle avait choisi avec soin, dont les fenêtres donnaient toutes sur le nord. Personne ne venait la voir, ni même ne lui téléphonait. Elle ne recevait aucun courrier, hormis des prospectus et des factures. Le traitement lui avait rendu la santé, sans plus. Rien ne pouvait lui rendre sa vie d'avant. Une vague couvrit entièrement la masse de sable qui, plus tôt, avait été un château. Les dernières ciselures que Caroline avait finement sculptées avaient disparu depuis un moment déjà. De l'édifice qu'elle avait patiemment érigé, il ne restait pratiquement plus rien. La mer avait effacé toute trace de la présence de Caroline sur la plage, comme la maladie avait effacé sa vie. Oh, certes, le traitement expérimental que lui avait conseillé son médecin avait vaincu son cancer. Les médicaments n'avaient eu qu'un seul effet secondaire sur elle. D'ébène, ses cheveux étaient maintenant décolorés, blancs, malgré ses 22 ans. Elle aurait pu l'éteindre, mais à quoi bon? Le soleil avait maintenant complètement disparu. Caroline se leva et quitta la plage, marchant vers le crépuscule.